guerre des États-Unis de 1492 en juin.
Par Howard Zinn. Chapitre 4. La tyrannie, c'est la tyrannie. Deuxième partie.
Le sens commun de Thomas Paine, qui parut au début de 1776 et devint le pamphlet le plus populaire des colonies américaines, y réussissait parfaitement. Il s'agissait de la première défense vigoureuse de l'idée d'indépendance en des termes qui pouvaient être compris par n'importe quel individu sachant lire. La société, quel que soit le visage, est une bénédiction, mais le gouvernement, même dans le meilleur des cas, n'est jamais qu'un mal nécessaire. Le sens commun connut une vingtaine d'éditions en 1776 et fut vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Il est probable que presque tous les colons capables de lire l'ont lu ou en ont au moins connu le contenu. La littérature pamphlétaire était d'ailleurs devenue à l'époque la scène principale du débat sur les rapports avec l'Angleterre. Entre 1750 et 1776, 400 pamphlets avaient paru qui traitaient, quel que soit le point de vue défendu, de la loi sur le timbre, du massacre de Boston, de la Boston Tea Party, ou de questions générales sur la désobéissance à la loi, la loyauté envers le gouvernement, les droits et les devoirs. Le pamphlet de Paine s'adressait à un large spectre de l'opinion coloniale, très remontée contre l'Angleterre. Pourtant, il provoqua également certaines craintes dans les rangs des aristocrates qui, bien que favorables, comme John Adams, à la cause patriotique, n'en désiraient pas moins s'assurer qu'elle n'irait pas trop loin dans le sens de la démocratie. Paine qualifiait le prétendu équilibre du gouvernement de la Chambre des Lords et de celle des communes de Dupri, et réclamait une chambre unique, de représentants, où le peuple serait réellement représenté. Adams dénonce le projet de Paine en prétendant qu'il est si démocratique, si dénué de garde-fous, ou de la moindre garantie d'équilibre ou de contre-pouvoir, qu'il doit inévitablement produire la confusion et les pires effets qui soient. Thomas Paine était issu des classes inférieures de la société anglaise. Fonctionnaire des impôts, instituteur, émigrant pauvre en Amérique, il arriva à Philadelphie en 1774, où l'agitation contre la Grande-Bretagne était déjà vive. En s'exprimant haut et fort, Paine pouvait espérer représenter ces classes laborieuses, politiquement émergentes. Il s'opposa d'ailleurs au système du vote censitaire en Pennsylvanie. Néanmoins, il semble que son principal souci fut d'être le porte-parole d'un groupe médian. Lorsque la révolution eut réellement commencé, Paine fit savoir de plus en plus clairement qu'il ne soutenait pas les émeutes populaires. En outre, Paine s'associa à l'un des individus les plus riches de Pennsylvanie, Robert Morris, dont il appuya la création de la Banque d'Amérique du Nord. Plus tard, lors de la controverse sur l'adoption de la Constitution, Paine devait à nouveau représenter les artisans des villes qui préconisaient un gouvernement centralisé et fort. Il semble avoir pensé qu'un gouvernement de ce type était seul susceptible de répondre à quelque grand intérêt général. En ce sens, il tomba lui aussi dans le piège du mythe, selon lequel la révolution est le produit de l'intérêt commun d'un peuple parfaitement uni. La déclaration d'indépendance exprima ce mythe avec la plus vive éloquence. Les mesures les plus radicales prises par les autorités britanniques exaspérèrent la rébellion coloniale au point de la changer en révolution. Les colons avaient réagi par un congrès discutant de la loi sur le timbre. Les comités des Fils de la Liberté, les comités de correspondance, la Boston Tea Party, et finalement, en 1774, en organisant un congrès continental, sorte de corps législatif illégal, précurseur d'un futur gouvernement indépendant. Ce n'est qu'après les chocs militaires de Lexington et de Concord, en avril 1775, entre les Minutemen coloniaux et les troupes anglaises, que ce congrès continental se dispersa. Ses membres mirent en place un petit comité chargé d'esquisser une déclaration d'indépendance dont Thomas Jefferson fut le rédacteur. Adoptée par le congrès le 2 juillet, elle fut proclamée officiellement le 4 juillet 1776. À cette date, il existait déjà un fort sentiment majoritaire en faveur de l'indépendance. Certains décrets adoptés en Caroline du Nord en mai 1776 et communiqués au Congrès continental déclaraient déjà l'indépendance d'avec l'Angleterre et affirmaient que toute loi britannique était désormais nulle et non avenue. On décrétait également l'urgence des préparatifs militaires. À peu près au même moment, la ville de Malden, au Massachusetts, répondant à la requête de la Cour générale du Massachusetts pour l'organisation d'un vote dans chaque ville de l'État sur le sujet de l'indépendance, avait, au cours d'une assemblée publique, lancé un appel unanime en faveur de l'indépendance en ces termes. Nous renonçons donc, avec le plus grand mépris, à toute relation avec un royaume d'esclaves. Nous faisons nos adieux définitifs à la Grande-Bretagne. Tous ces discours sur le contrôle du gouvernement par le peuple, sur le droit à la rébellion et à la révolution, toute cette indignation vis-à-vis de la tyrannie politique, des brimades économiques et des agressions militaires, parvenaient à rassembler un très grand nombre de colons et de surcroît, à persuader ceux que certains griefs opposaient les uns aux autres, à focaliser leur rancœur sur l'Angleterre. Pourtant, certains Américains restaient clairement exclus de cette communion autour d'intérêts partagés que la Déclaration d'indépendance prétendait formaliser. On n'y évoquait nulle part les Indiens, les esclaves noirs, ni, pour finir, les femmes. Thomas Jefferson avait rédigé un paragraphe de la Déclaration accusant le roi de faire transporter des esclaves vers les colonies et d'empêcher toute tentative de faire cesser, ou tout au moins, de limiter ce commerce exécrable. Il semblait exprimer là une véritable indignation morale à l'égard de l'esclavage et de la traite. L'aversion de Jefferson pour l'esclavage ne doit pas faire oublier le fait qu'il possédait, à sa mort, plusieurs centaines d'esclaves. Pourtant, il ne s'agissait là que de la prise en compte de la crainte éprouvée par les Virginiens et autres sudistes devant le nombre croissant d'esclaves noirs vivant dans les colonies, 20% de la population totale, et devant la menace également croissante de les voir se révolter. Ce paragraphe rédigé par Jefferson fut rejeté par le Congrès continental en raison de désaccords existants au sein même de la communauté des propriétaires d'esclaves sur le caractère souhaitable ou non de la fin de la traite. Ainsi, même ce geste en direction des esclaves noirs fut-il effacé du grand manifeste en faveur de la liberté de la révolution américaine. Déclarer que tous les hommes naissent égaux n'était probablement pas une façon de porter un jugement explicite sur les femmes en tant que telles. Plus prosaïquement, elles ne paraissaient pas dignes d'être mentionnées. Elles étaient en fait politiquement invisibles. Bien que la simple nécessité leur conférât une certaine autorité dans la conduite du ménage, de l'exploitation agricole ou dans leur fonction de sage-femme, elles étaient purement et simplement exclues dès lors qu'il s'agissait de droits politiques ou d'égalité civique. Affirmer que la déclaration d'indépendance, jusque dans la lettre même, se bornait à reconnaître les droits à la vie, à la liberté et au bonheur des hommes blancs, ce n'est pas accuser les concepteurs et signataires de la déclaration d'avoir eu la mentalité que l'on pouvait attendre de blancs privilégiés au XVIIIe siècle. Les historiens réformistes et radicaux, étudiant avec un certain esprit critique le passé, sont bien souvent accusés d'en exiger trop, et c'est en effet ce qu'ils font parfois. Pourtant, faire la liste de ceux que la déclaration laisse aux portes des droits de l'homme ne signifie pas forcément, à des siècles de distance et bien inutilement, se livrer à une condamnation morale de l'époque à laquelle elle fut rédigée. C'est en revanche tenter de comprendre comment cette déclaration a pu permettre de mobiliser certaines communautés d'Américains, tout en ignorant d'autres. D'ailleurs, il est certain qu'aujourd'hui encore, la plupart des discours exaltés, destinés à forger le consensus, servent à dissimuler de sérieux conflits d'intérêts au sein même des sociétés prétendument consensuelles, tout en laissant de côté de nombreux autres membres de la communauté humaine. À l'époque même où la situation américaine devenait de plus en plus tendue, en 1768, l'Angleterre fut secouée par les émeutes et les grèves. Mineurs, ouvriers des scieries, chapeliers, tisserands, marins, en raison du prix élevé du pain et des salaires misérables. L'Annual Register rend compte des événements du printemps et de l'été 1768. Un sentiment général d'insatisfaction domine malheureusement parmi les plus basses classes du peuple. Ce mauvais état d'esprit, occasionné en partie par le prix élevé de la nourriture et en partie par d'autres raisons, s'est manifesté trop fréquemment par des émeutes ou des troubles qui ont eu les plus déplorables conséquences. Le peuple, prétendument au cœur de la théorie de la souveraineté populaire défendue par John Locke, était ainsi défini par un membre du Parlement anglais. Je ne parle pas de la populace, je veux parler de l'anglais moyen, de l'artisan, du petit propriétaire terrien, du commerçant, du gentilhomme des campagnes. En Amérique également, la réalité que dissimulait le vocabulaire de la déclaration d'indépendance, rédigée la même année que le manifeste capitaliste d'Adam Smith, était qu'une classe montante, composée de notables, devait nécessairement rallier suffisamment d'Américains pour battre l'Angleterre, sans pour autant bouleverser outre mesure les rapports tissés entre argent et pouvoir. Pendant les quelques 150 ans d'existence des colonies. D'ailleurs, 69% des signataires de la déclaration d'indépendance avaient occupé des postes d'administrateurs coloniaux sous l'autorité de l'Angleterre. La déclaration d'indépendance, avec toute sa rhétorique radicale passionnée, fut lue du balcon de l'hôtel de ville de Boston par Thomas Crafts. Ce dernier était un ancien membre du groupe des Loyal Nine, ces conservateurs qui s'étaient opposés aux émeutes populaires contre les Anglais. Quatre jours après cette proclamation, le comité de correspondance de Boston ordonnait aux citoyens de la ville de se rendre sur le terrain municipal pour satisfaire à l'incorporation militaire. On constata alors que les riches pouvaient échapper à la conscription en s'offrant des substituts. Les pauvres, eux, ne le pouvaient évidemment pas. Des manifestations eurent lieu, au cours desquelles on entendit crier « La tyrannie, c'est la tyrannie, quel que soit celui qui l'impose !» Vers 1776, certaines personnalités de premier plan des colonies anglaises d'Amérique firent une découverte qui allait se révéler extrêmement utile au cours des deux siècles suivants. Ils imaginèrent qu'en inventant une nation, un symbole, une entité légale appelée États-Unis, ils seraient en mesure de s'emparer des terres, des privilèges et des pouvoirs politiques détenus jusque-là par les protégés de l'Empire britannique. Du même coup, il pourrait contenir un certain nombre de révoltes en suspens et forger un consensus qui assurerait un soutien populaire suffisant au nouveau gouvernement contrôlé par une nouvelle élite privilégiée.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.